apprend, il n'y a personne d'autre, à part ma mère, qui a le gène. Alors, on ne sait pas comment ma mère s'est retrouvée avec ce gène-là. Et elle a eu ma sœur avant moi et mon frère. Ma sœur n'a pas eu cette limitation-là. Et seulement mon frère et moi, on l'a. Et oui, si je veux avoir un bébé, il y a 50% de chances que cet enfant-là soit atteint d'une limitation.
OK. Là, il y a trois enfants chez vous. Vous êtes trois?
Oui, on est trois.
Vous êtes trois. Puis tu veux-tu des enfants, toi?
Honnêtement, c'était dans mes projets de vie.
Ah ouais?
Maintenant, je suis en questionnement par rapport à ça, pour certaines raisons. Mais c'est sûr que la question de la limitation joue beaucoup dans mon questionnement parce que je sais c'est quoi vivre avec une limitation. Pas que c'est catastrophique, mais ça vient avec beaucoup plus de défis, de challenges au quotidien. Fait que je suis en questionnement à savoir est-ce que j'ai envie de prendre cette chance-là. On peut prendre des choses, on peut aller à l'hôpital hein, pour quand on va avoir un bébé avec une fille, on peut aller à l'hôpital pour qu'il fasse des études pour voir s'il y a vraiment des gros risques. Mais la question, c'est de savoir est-ce que je veux à ce point-là en avoir. Puis j'ai pas de copine présentement, fait que je peux pas m'avancer là-dessus non plus, mais ça va être à voir.
OK, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que tu aies cette réflexion-là. Est-ce que... parce que moi, je te vois aller... Ouais. Tu sais, là, t'as quel âge, là?
J'ai 21.
T'as 21 ans, fait que je vois le produit qui est fini. Là, tu sais, t'as commencé, t'es né comme ça. Tes parents, ça a été quoi, leur première impression? Est-ce que t'es le plus vieux? Ton frère, à toi, es-tu plus jeune?
Oui, mon frère a 19. J'ai été le premier à avoir cette...
Fait que t'étais le premier. Ouais. Donc, tes parents ont commencé avec un enfant qui était non-voyant. Est-ce que tu sais que ça... par quoi sont passés quand t'es né? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les discussions? Puis qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place pour que toi, t'aies une belle vie?
Mes parents, honnêtement, ça a été un gros questionnement. Faut comprendre, comme j'ai dit, que ma soeur n'avait pas de limitation, elle n'avait rien. Alors mes parents n'étaient pas habitués à ça. Mm-hmm. Et moi, quand je suis né, bien évidemment, mes yeux n'ouvraient pas. Je voyais pas la lumière au début. Et mes parents se sont posé la question dès le départ, mais les médecins leur ont dit « c'est normal, ils vont s'ouvrir dans les prochains jours ». Fait qu'ils se sont pas questionnés dès le début, mais c'est au bout d'une semaine, quand mes yeux n'ouvraient pas, que mes parents « non, OK, il faut aller voir ». Et on est allé à Rivière-du-Loup et on a eu droit à un diagnostic complètement ridicule d'une médecin qui disait que j'avais juste un petit problème de vision et qu'avec une simple petite opération, ça passerait. Et d'ailleurs, ce médecin-là, mes parents ne l'ont pas dans leur cœur présentement parce que justement, ça leur ralentit le processus.
Okay.
Et finalement, mes parents ont demandé d'aller à Sainte-Justine, l'hôpital pour enfants à Montréal, pour aller voir peut-être le meilleur médecin au Canada.
Ouais.
Dr. Hamel, là, c'est une perle, ce gars-là. Et mon père, lui, est encore dans l'illusion que j'avais une limitation qui n'était pas grave. Mais ma mère, elle, avait une vision plus, pas négative, mais plus réaliste de la chose. Et mon père, quand on est allé à l'hôpital, a demandé au médecin, c'est grave, combien sur 10? Et le médecin a répondu, 8.
Oh!
Ouais. Alors mon père, à ce moment-là, ça a été...
Ça a été une claque d'en face.
Ça a été un choc.
Parce que nos enfants, t'sais, on les chérit jusqu'à la fin de leur vie, puis on veut qu'il y ait une super de belle vie. Puis quand tu t'attends pas à ça, puis tu sais que ton enfant est atteint de cécité, tu sais que ton enfant va avoir des défis qui vont être très difficiles à surmonter. Est-ce qu'on est encadré, quand on est parent d'enfants qui sont atteints de cécité, est-ce qu'on est encadré au Québec? Est-ce que tes parents ont eu des éducateurs spécialisés pour les gens qui étaient atteints de cécité? Pour les assister?
Pour être honnête, il n'y a pas beaucoup d'aide. Non, il n'y a pas beaucoup d'aide qui existe. Ce qui existe pour les personnes aveugles, c'est l'ACPEV, l'Association des personnes aveugles du Québec.
Ouais.
C'est un groupe d'entraide qui existe pour avoir des réunions, pour justement encadrer les parents qui ont des enfants avec une cécité. Mais je veux dire, c'est une réunion ou deux mois. Une réunion ou trois mois, c'est pas suffisant. Il faudrait avoir des programmes plus développés. Il n'y a pas assez d'encadrement. Les parents sont trop dans le questionnement de qu'est-ce qui va se passer. L'enfant, c'est plus tard qu'il va avoir besoin d'aide, quand il va arriver à l'adolescence. Mais pour les parents, c'est un choc, là. Puis honnêtement, une chance que mes parents, c'est des personnes qui sont habituées, qui ont été habituées d'avoir des défis dans leur vie. Alors, j'ai été chanceux. Ils se sont vraiment revirés de bord rapidement. Après une semaine, ma mère était déjà « qu'est-ce qu'on peut faire pour que mon enfant vive le plus normalement possible?
»
J'ai rentré rapidement en ergothérapie. L'ergothérapie, pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec ça, c'est pour tout faire la proprioception du corps. Parce que quand on est non-voyant, on n'a pas conscience de l'espace. Alors, rapidement, j'ai tombé en ergothérapie. Ma mère, je vous le dis, ma mère m'a tellement stimulé.
Ah ouais?
Ah, ma mère, elle était acharnée, là. Écoute, le nombre d'exercices qu'elle me faisait faire pour que, justement, mes yeux voient, soient capables de plus voir. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que je vois comme je vois quand même bien, pas bien, mais que je réussis quand même à me débrouiller. C'est grâce, justement, à cette stimulation-là.
T'as eu la meilleure mère au monde.
On peut dire ça. Ouais.
Comment ça se passe, l'apprentissage du braille? Moi, sérieusement, je te vois travailler au collège avec ton ordinateur, plus ton petit clavier braille, puis à la vitesse avec laquelle tu lis, je me dis, tu sais, il n'y en est pas à ses premières armes, là. ils doivent t'avoir montré ce clavier-là très rapidement. Qui te montre ça quand tu es atteint de cécité et que tu es jeune?
Ben, on a commencé très jeune. Je me rappelle, dès ma maternelle, on a commencé. Tu as deux options quand tu es non-voyant. Soit tu vas à l'école Jacques Ouellet à Montréal, qui est une école spécialisée pour les personnes non-voyantes ou même d'autres handicaps. Parce qu'avant, c'était juste des personnes aveugles, mais maintenant, ils accueillent d'autres personnes. Et ces éducateurs-là sont vraiment spécialisés pour t'apprendre le braille. Mais moi, mes parents ont fait le choix de me faire rester dans une école régulière. Ce qui, à l'époque, est un choix que moi, j'acceptais moins, d'ailleurs, parce que moi, je trouvais que c'était plus facile pour moi d'aller dans une école qui était spécialisée. Mais avec du recul, on voit que ça a vraiment...
Okay.
Ça m'a vraiment aidé.
Pourquoi tu aurais aimé mieux être dans une école spécialisée?
Parce que, premièrement, j'étais en première année, j'acceptais pas ma limitation.
Non, t'étais fâché.
Ah, j'étais fâché après tout le monde, je te dirais.
Ouais.
J'avais pas d'amis, c'était très compliqué. Les seuls amis que j'avais, c'était justement des personnes qui avaient la même limitation que moi. Alors, moi, dans ma tête, d'un jeune de 9-10 ans, je me disais, c'est beaucoup plus facile d'aller dans une école où les gens sont comme moi. Mais c'est parce que la réalité, c'est que c'est pas la réalité dans la vie.
La société est pas faite comme ça.
On vit pas dans un monde... De personnes aveugles ou dans un monde des personnes qui sont seulement comme toi.
Un village atteint de cécité, ça serait complètement malade.
Il y aurait peut-être moins de pollution, hein. Il n'y aurait pas de char.
peut-être moins d'accidents aussi.
Oui, aussi.
c'est sûr. Ah, c'est très drôle. Donc, toi, tu n'acceptais pas ta différence. C'était fâchant parce que, on se compare quand on est jeune, puis on veut savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à tous ces jeunes-là qui sont autour de nous. Les jeunes n'étaient pas portés à aller vers toi? Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'au collège, les gens t'ont tout de suite adopté. T'es master à moi, là. Tu sais, t'es un gars brillant. On voit que pour toi, les défis, ça n'a pas vraiment d'importance. Les défis, tu piles dessus à grands coups de pied. T'es beau à voir aller. T'étais-tu comme ça au secondaire?
Au secondaire, oui. Mais à l'époque, au primaire, j'étais pas comme ça. J'étais vraiment fâché. Puis il faut comprendre, je me faisais un peu intimider aussi. Bien, comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs, hein, qui vivent avec des différences.
Ben, quelqu'un qui est roux, quelqu'un qui est obèse, il va y passer.
Et moi, ma réaction, c'était, moi, je le disais pas aux gens, je me battais. Je m'ai bagarré une couple de fois, je dirais, au primaire.
Attends un peu, là. Tu te battais.
Ouais, j'avais pas peur de grand chose.
T'as swingé combien de personnes dans le vide?
une coupe. Non, mais j'étais déjà casse-cou. J'étais déjà casse-cou à l'époque. Moi, j'étais en mode, je vais régler mes problèmes moi-même.
Mais tu sais quoi? Peut-être, là, c'est le père de famille qui parle. Là. T'sais, moi, j'ai deux gars, puis mes gars, ils ont pas le droit de se battre. Je veux qu'ils règlent les choses de façon verbale. Si ça va pas, faut qu'il y ait un intervenant. Mais l'idéal pour moi, c'est qu'ils règlent les choses eux-mêmes.
Oui.
Puis si le frère peut assister, le grand frère peut assister, ben je veux qu'il le fasse, mais je veux pas qu'il y ait de violence. Mais j'imagine que pour ton père, je peux pas croire que je dis ça à la radio, mais pour ton père, de savoir que tu te laissais pas piler dessus, ça a dû être une bombe sur la plaie, là.
Oui.
Sur ses inquiétudes, du moins.
Oui, puis ça montrait que j'avais déjà du caractère à l'époque. Là.
Exact.
J'ai tout le temps été quelqu'un qui avait un
gros caractère. Mon fils, c'est un lion. Un lion aveugle, mais c'est un lion.
Mais comment je te dirais ça? J'étais fragile, mais je réagissais. J'étais fragile, mais je fonçais quand même. J'ai toujours été quelqu'un qui fonçait, puis je m'en rendais pas compte à l'époque. Au secondaire, tu t'en rends plus compte parce que t'as plus de maturité. Mais pour un gars de 4e, 5e année, t'es pas en train de réaliser que t'as du caractère. Je veux dire, ça fait juste partie de ton tempérament, probablement. Mais je me laissais pas marcher ses pieds. Je veux dire, j'y allais, puis se battre, c'est pas bien, je conseille ça à personne. Mais je me faisais quand même respecter par la suite. Là. Parce exact. Que les gars avec qui je me battais, mais ils, jamais m'ont intimidé après. Puis au secondaire, je m'ai jamais fait intimider non plus. Là.
OK. Ça l'a arrêté, toi, au secondaire?
Ça a arrêté en secondaire 1. Il y a eu quelques commentaires vis-à-vis de mon handicap en secondaire 1, mais c'était pas d'intimidation. C'était des commentaires. Mais honnêtement, quand j'ai commencé à devenir plus connu en raison de justement mon sport... c'est quasiment le contraire. Là. Les gens qui intimidaient les gens me défendaient. C'est quasiment rendu ça. Là. Alors non, ça a changé du tout au tout. Mais non, au secondaire, j'en ai pas vécu. Puis j'ai été chanceux parce que souvent, le secondaire, c'est pire que le primaire, on s'entend.
Ce que je trouve incroyable aussi, Benjamin, c'est qu'on a tendance à oublier que t'es que t'as de la cécité, que tu vois pas.
Ouais.
Tu sais, puis au collège, tu sais, juste pour raconter l'anecdote,
ouais.
Je veux dire, tu marches en arrière des gars, les gars s'en vont aux toilettes ou dans les studios, puis eux autres, ils marchent, ils voient une échelle, ils se tassent, mais ils prennent pas à peine de te le dire qu'il y a une échelle, puis le concierge est sur l'échelle.
Ouais, c'est vrai.
C'était enfargé. Hey, on en rit, là, parce qu'il y a pas eu de mort.
Ça répète, dangereux, mais pour le gars.
Ça arrive-tu souvent, ça, que les gens oublient que t'es atteint de cécité?
Ah, oh, ben oui.
Parce que autonome.
Écoute, en secondaire 4, avant une compétition en Arizona, mon père, je me rappellerai toute ma vie, il m'avait dit « Ben, tu joues pas au soccer. » Puis moi, je l'ai pas écouté, parce que bon. on va commencer à me connaître, là. Puis mon ami, une de mes amies, qui est une de mes meilleures amies encore aujourd'hui, elle me dit « Ben, va chercher le ballon. » Donc, va chercher le ballon. Mais il y avait un banc, tu sais, un banc de soccer là, où le monde s'assoit.
Ouais.
Puis je l'ai pas vu. Puis elle a oublié de me le dire. J'ai foncé dedans, mais le banc a tombé tellement j'ai foncé dedans. Là. J'ai eu un méchant bleu sur la cuisse pendant un mois. Puis mon père s'en est jamais rendu compte d'ailleurs, parce que j'ai performé pareil. Je m'ai pas blessé, j'ai été chanceux. Là. Mais oui, mes amis oublient, parce que j'ai une attitude un peu... tu sais, une attitude un peu low profile, je vais faire tout comme vous quand même.
Ouais, mais t'es un gars de ton âge, puis t'es un gars qui, tu sais, bon, mon père, il dit que je peux pas jouer au soccer, je peux bien jouer au soccer. ça a-tu bien été? T'as-tu fait un but?
Tu ris, mais j'ai marqué des buts au secondaire au soccer. J'étais, parce qu'on me mettait attaquant.
Okay.
J'étais pas défenseur, parce que défenseur, j'étais vraiment pas bon. Je voyais pas les feintes des gars. je voyais pas les fesses, je me faisais déculotter.
Ouais.
Mais en attaque, je sais pas pourquoi, j'avais un excellent tir. J'étais très bon pour tirer. Puis je voyais le but un peu. Fait que j'étais capable, juste avec ma précision, de tirer dans le but. Puis je marquais beaucoup de buts. Fait que moi, la stratégie des gars, c'était ben, passe au devant le net comme Ovechkin, là, au hockey, puis bouge plus. On va te passer le ballon, puis tu feras un tir sur réception.
Puis ça marchait.
Ça marchait.
OK.
C'est un peu comme Ovechkin. Tout le monde savait que j'allais tirer, mais pas capable de m'arrêter.
Exactement. Exactement. T'es une machine. C'est quoi les difficultés qu'une personne dans notre société, ouais. Une personne qui est atteinte de cécité, c'est quoi les difficultés qu'elle a aujourd'hui? Parce que là, on a avancé,
y en a
là.
Mais
il y en a encore beaucoup.
Il y en a beaucoup. Ben, premièrement, au niveau orientation. Quand je parle d'orientation, je parle au niveau des déplacements dans la rue. S'il y a des constructions, on les voit pas. Moi, je vois un peu, mais c'est quand même très dangereux, là, parce qu'il faut que je contourne dans la rue. Au niveau des transports, c'est de la logistique, c'est très compliqué. Je me rappelle, tu m'avais déjà dit que je pouvais avoir 2000 excuses pour arriver en retard à l'école.
Ouais.
Au niveau des transports, c'est exactement ça. Là.
En fait, juste pour raconter l'anecdote, Benjamin, c'est qu'il y a des gens qui sont en retard à tous les matins. Mais Benjamin, il n'est jamais en retard. Puis je l'ai pris en exemple en disant, vous autres, vous avez toujours des raisons, pas rapport, là. Puis vous arrivez tout le temps avec des monsters ou des cafés. Puis Benjamin est tout le temps là d'avance, alors que lui, il aurait 2000 raisons d'être en retard, là, tu sais. Puis je pense que ça t'est arrivé, là.
Une fois, oui.
Un abri d'autobus où l'autobus, ça passe pas. Ben Benjamin, lui, attend à cet abri d'autobus-là. Puis il n'y a pas personne qui dit que c'est pas desservi aujourd'hui. Ça, c'est ordinaire, là.
Ben, je veux dire, les gens n'ont pas le réflexe naturel d'aller vers une personne qui... Bon, premièrement, les gens se posent toujours la question. Ouais, mais là, peut-être qu'il fait juste attendre. Deuxièmement, les gens n'ont pas le réflexe dans la société d'aller nécessairement tout le temps aider. ça, c'est dommage, mais c'est une réalité. Puis je veux pas parler pour tout le monde. Il y a des gens qui aident, puis c'est excellent.
Okay. Est-ce que les gens peuvent se sentir mal, Benji? Mettons que, ouais. Je sais pas, tu sais, ils voient que tu mets tes mains devant toi pour marcher. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent se sentir mal? Parce que je sais qu'il y en a qui hésitent en raison du malaise. Ben, si je l'aide, il va-tu me dire, hey, je suis capable de le faire tout seul? T'sais, tu me prends pour un handicapé? Tu sais, il y a des gens qui ont ce réflexe-là penser.
Puis c'est pas... Le pire, c'est que souvent, c'est par des expériences passées. Parce qu'il y en a des personnes qui vivent avec la même limitation que moi, que jamais ils vont accepter de l'aide. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas leur limitation encore à 21 ans, 25 ans. Même il y en a des personnes qui ont 40 ans qui ne l'acceptent pas encore. Mais en général, je te dirais, t'es mieux quand même d'aller voir la personne, puis à la limite, il va te dire qu'il n'y a pas besoin d'aide, que de rien faire. Là. Écoute, j'ai déjà fait une expérience dans un Tim Hortons, OK? C'est dans le cadre d'un de mes cours. J'ai fait assemblant de me perdre, d'être perdu dans le Tim Hortons, carrément.
C'est un aveugle,
ouais.
Quelqu'un qui est atteint de cécité, qui ouais. réalise une expérience où il fait semblant de se perdre dans un Tim Hortons.
J'ai fait assemblant d'être plus handicapé que je l'étais déjà, okay. que je suis. Dans le sens que j'ai figé devant une file. Je suis arrivé dans une file puis j'ai figé. J'avançais plus. C'est dans le cadre d'un cours, mais j'ai fait vraiment par exprès.
Les gens ont réagi comment?
Ben, veux-tu que je te dise, je m'ai pas fait aider.
Il y a personne qui t'a aidé.
Il y a personne qui m'a aidé. Ça a pris 15 minutes avant qu'une madame vienne me dire « T'as-tu besoin d'aide? » Tu comprends-tu? C'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Là.
Ben oui, il y a un problème.
Il y a un gros problème.
Mais tu sais, la raison pour laquelle moi, ouais. je t'invite, c'est pour parler de ta vie, oui, mais de parler aussi de ce que vous vivez au quotidien. Moi, je suis de ces personnes-là qui essayent d'aider le plus possible, mais ouais. des fois, j'ai une hésitation.
Ben oui.
Si la personne arrive avec sa chaise roulante, tu sais, je vais y tenir la porte, mais ça va dépendre de son visage. Si je vois qu'il est comme fâché, là, je vais comme lâcher à la porte. Tu sais, parce que je me sens... Ouais. Tu sais, comment je te traite au collège? Tu penses, je te traite-tu comme quelqu'un de différent?
Non.
Non.
Pas du tout.
Pourquoi? Parce que la société, c'est comme ça. Puis moi, en te traitant comme un individu à part entière, comme toutes les autres, je pense que tu comprends que je te respecte énormément.
Ben oui, mais il y a une chose aussi. Là. Oui, les gens doivent t'aider en tant que personne qui a un handicap. Par contre, comme je l'ai dit tantôt, t'es pas dans une société de personnes qui ont des limitations. Donc, c'est à la personne qui a une limitation de s'adapter le plus possible à cette société-là. Puis je pense que c'est ça que j'essaie de faire vraiment tous les jours dans tout ce que je fais. C'est à toi de trouver les solutions. C'est pas à la personne de te dire, il peut t'aider à trouver la solution, mais c'est pas à la personne de te trouver une solution. Si j'avais dit, moi je veux travailler en communication, mais vous me trouverez les trucs pour que je puisse le faire. Ben, on m'aurait pas pris au collège. Parce non. que le directeur m'aurait dit, ben là, ça marche pas, on les connaît pas. Mais quand toi, t'amènes les trucs, puis t'amènes comment tu peux fonctionner, là, les gens vont être ouverts à t'écouter, puis à, OK, ça, on peut faire ça comme ça, on va l'adapter. Mais c'est à toi d'amener ces solutions-là, puis démontrer que tu es capable, avec les moyens que tu as, de tout faire en réalité. Peut-être pas tout faire, là, mais le trois quarts au moins.
OK. Toi, c'est comme ça que tu te motives?
Oui.
OK. Donc, une personne qui est atteinte de cécité aujourd'hui, en 2022, a encore des difficultés au niveau de l'orientation.
Beaucoup.
OK. Y a-tu d'autres choses?
La socialisation.
Socialisation.
Socialisation. C'est un gros terme. Hein? Mais quand je parle de socialisation, puis là, les gens qui me connaissent vont dire, ben, t'en as pas de problème de socialisation parce que j'ai beaucoup d'amis, je suis quelqu'un qui fonce vers les gens. Mais j'ai pas tout. Mais moi, qui fonce dans tous les sens du terme. Je fais souvent des blagues comme ça, inquiétez-vous pas.
Ouais, mais... T'as jamais pensé être humoriste?
Je pourrais, hein?
Ouais, oui. Non, mais... Je pourrais. Ils font plus d'argent que les animateurs de radio. Et les filles sont plus là aussi auprès des humoristes que les animateurs de radio, Benji.
Ah ouais,
ouais. ouais. Ça reste à voir. On en jasera après
c'est
le
ça,
show.
On en reparlera. mais sincèrement, c'est ça, j'ai beaucoup d'amis, mais j'ai pas toujours été comme ça. Là. Avant mon secondaire 3, j'avais pas d'amis. C'est dur à croire aujourd'hui. Puis la plupart des personnes qui ont le même handicap que moi, je te le jure, ils ont 2-3 amis, puis c'est tout. Ça marche pas. Il y a un énorme problème. Premièrement, les gens vont pas vers eux. Et deuxièmement, eux n'ont pas suffisamment le réflexe d'aller vers les gens. Ils attendent, ils sont trop passifs. Ils ont peur des jugements. Puis ils ne s'adaptent pas nécessairement non plus, comme je dis aux gens. Alors, au niveau de la socialisation, il y a un énorme problème où souvent, ils vont avoir des amis à l'école, mais ils vont pas leur parler à l'extérieur. Ce qui fait qu'ils vont avoir des amis sur leur milieu de travail, sur leur milieu scolaire, mais ils vont arriver à l'extérieur, ils se feront jamais texter. Là.
T'expliques ça comment?
Il y a plusieurs raisons. Je pense que les gens n'ont pas le goût. Les gens, ça leur dérange pas, Yann, de t'aider dans le milieu de travail ou d'être avec toi à l'école. Mais ils n'ont pas le goût de tout le temps devoir te tenir la main à l'extérieur. Là. Ils vont aller au Canadien de Montréal, par exemple, ça leur tente pas de te guider tout le temps. Là. C'est okay. Pas vrai. Là.
Je comprends.
Ça, mais
t'as l'impression que les gens te voient une amitié avec quelqu'un qui est atteint de cécité ou une personne qui a un autre handicap, voient cette amitié-là comme un fardeau?
Plus compliqué. Une amitié plus compliquée. Okay. C'est-à-dire qu'il peut pas tout faire comme toi. Alors là, tu te sens un peu responsable, mais comment on va faire? Puis, je veux dire, tu vas dans un party avec quelqu'un qui voit pas. Faut que tu sois conscient qu'il faut que tu le guides quand même une couple de fois.
Ouais.
Faut que tu peux pas le laisser tout seul. Il va avoir besoin de livre pour revenir. Ça peut devenir lourd à la longue. Mais par quoi tu peux compenser? Ça revient encore à ça. C'est l'attitude. Moi, mes amis, ça leur a jamais dérangé de me guider. Là. Quand on a fait un gros voyage à New York en secondaire 5. Puis mes amis m'ont guidé tout le long du voyage, ça leur a jamais dérangé. Non. Mais ça part de quoi? C'est l'attitude. C'est la manière que tu agis dans ton quotidien. Il faut que tu sois quand même autonome. On s'entend. Quand je parle d'autonomie, c'est. Tu n'as pas besoin d'aide pour. Hey, t'as pas besoin d'aide pour couper ta bouffe, là, rendu à 18 ans. Puis là, je dis ça a l'air banal, ce que je veux dire, mais il y en a plein de personnes aveugles qui coupent pas leur bouffe encore, puis on m'entend. Là.
Ils coupent. Ah oui.
Non, ça paraît banal. Puis prendre leur douche quand ils arrivent à l'hôtel, puis ils connaissent pas ça, compliqué. Là. Puis il y a beaucoup de choses banales qu'il y en a qui sont pas capables de faire encore à 25 ans, puis qui vivent encore chez leurs parents aussi ouais. À 24 ans.
Là. Fait que toi, tu prends le temps de le faire.
Ben moi, on m'a appris, mes parents, dès que j'avais 14 ans. J'ai commencé à 13-14 ans, moi, à apprendre à couper ma nourriture.
Okay.
Mes parents ont été très rapides là-dessus. Alors, quand je suis arrivé à 17-18 ans, j'avais plus besoin d'aide là, pour couper mes affaires. Au niveau de l'habillement aussi, je veux dire, on s'entend, il faut que ton linge fitte ensemble.
Ben là, parle pour toi, parce que moi, ça n'a jamais été une priorité. Non, regarde-moi okay. aller, là.
Je peux pas te juger là-dessus. Là,
mais... moi, chez nous, Benjamin, là, à gauche, c'est la pile de linge sale. À droite, c'est la pile de linge propre. Puis il faut tout le temps que je prenne du linge, souvent, ce qui est sur le dessus, là, avec une paire de culottes. Puis merci, bonsoir, on est parti.
Mais non, mais moi, mes parents m'aident à faire mes kits
okay.
avant de partir. Comme ça, c'est tout.
Fait que t'es coquet en plus. Hein?
J'aime être beau au niveau de l'apparence quand même.
Ouais. Comment ça fonctionne avec les filles quand on est aveugle?
Ouais, ça c'est un autre challenge, je dirais. Sous mon avis, quand je parle que la socialisation, c'est compliqué,
ouais.
C'est pas plus simple pour les filles. Là, je vais être honnête avec toi. C'est même un peu, comme je dirais ça, la plupart des gens qui ont un handicap visuel, ils vont sortir avec des filles qui ont une limitation visuelle.
Pourquoi?
C'est moins compliqué.
C'est moins compliqué?
C'est moins compliqué à trouver. C'est parce qu'une fille qui a la même limitation que toi, si elle tombe en amour avec toi, elle va tomber en amour, tu comprends? Puis elle va aller dans la relation. Moi, souvent, j'ai l'impression que les filles, ils sont fines avec moi parce qu'ils veulent m'aider, mais ça va pas plus loin que ça. Là.
Toi, tu veux pas de Mère Teresa?
Non, pas vraiment. Mais moi, honnêtement, j'ai plus d'attente par rapport à ça. J'ai vraiment lâché prise par rapport à l'amour dans ma vie. Mais... c'est un défi supplémentaire, ça vient avec l'amitié, mais c'est encore plus compliqué que l'amitié. Là. Je veux dire, l'amitié, c'est une chose, mais l'amour, c'est un step en haut. Là.
OK. Donc, est-ce que, je sais pas, y a-tu une association de personnes non-voyantes qui pourrait aider à ça, à ce type de rencontre-là? Ça existe-tu? Des sites de rencontres pour les gens atypiques, mettons? On peut dire ça atypique, je sais pas.
Non, ça existe pas. Mais il y a des trucs. Quand je parle de trucs, ça vient avec les mêmes trucs que je t'ai parlé tantôt. Je veux dire, aller voir les gens, avoir une attitude le plus normale possible. Faut pas que la fille, pour elle, soit un fardeau, comme on a dit. Faut que ça soit le plus normal possible. Okay. Faut comprendre que tu conduis pas. Hein.
Ouais.
Ne pas conduire, souvent, c'est moins glamour. Comme on dit, c'est moins... Je veux dire, souvent, les filles, c'est un critère, là, surtout à 21-22 ans. Il y a que le gars conduit. Ben, faut que tu compenses ailleurs. Fait que c'est sûr que bon.
Tu compenses mais... comment?
C'est une bonne question.
Ça se dit pas en radio.
Non, c'est sûr.
OK.
Non, mais sincèrement, c'est un défi. Ouais. C'est encore plus compliqué que l'amitié, si tu peux savoir. Mais puis la plupart des gars que je connais qui ont la même handicap que moi, je veux dire, ils ont pas de blonde, puis ils ont 23-24 ans. Là.
OK.
C'est un défi.
T'as-tu peur de finir ta vie seule?
Je sais pas si la peur, c'est un bon mot. J'ai toujours voulu être en couple. Je veux dire, j'étais en cinquième année, puis j'étais en cinquième année, puis je regardais déjà les filles. Là. Ben, je regardais, c'est un gros terme, là, mais moi, c'est ça. Tu sais, je voulais déjà être en couple en cinquième année.
En fait, t'es le seul gars que je connais qui peut dire, ben, au secondaire, je taponnais les filles, puis il y a personne qui va t'en vouloir.
Non, c'est ça. Non, mais j'ai toujours été quelqu'un qui voulait être en couple depuis ouais. ma cinquième année. Mais je te dirais que j'ai eu des moments assez, assez difficiles par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de rejets.
De déception.
De déception en amour, ouais. J'ai eu beaucoup de filles qui m'ont dit non. Puis je te dirais que ça m'a beaucoup frappé. J'ai eu des moments très difficiles. Il n'y avait pas juste ça dans ma vie, évidemment, à ce moment-là. Mais ça m'a frappé. Je te dirais qu'aujourd'hui, je suis rendu beaucoup plus... C'est même plus la peur, c'est j'ai vraiment lâché prise.
Okay.
C'est si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas. Écoute, je me dis, avec tout ce que je fais au niveau de travail, au niveau sportif, s'il n'y a pas une fille qui réalise ça,
ben, c'est son problème à elle.
Je peux pas faire grand chose de plus. Exact. C'est, à un moment donné, ça joue à deux un couple. Je peux pas faire tout, je peux pas faire des choses impossibles pour plaire à une fille. Donc, non, c'est pas de la peur, c'est j'ai déjà eu peur, maintenant c'est plus de la peur.
Benjamin Ouellet, il force pas l'amour.
Non, je l'ai déjà forcé dans le passé.
Ah ouais?
Je faisais beaucoup, beaucoup d'efforts, trop d'efforts. Maintenant, non, j'ai vraiment lâché prise. Non.
Mettons, fais-moi un top 3 de tes pires dates, mettons.
Mes pires dates? Écoute, j'ai eu... Ben, il n'y a pas un top 3 particulier, mais j'ai eu beaucoup de... Il y a eu une fille, j'ai connu une fille, ça fait pas longtemps en plus, ça doit faire 6 mois. Je connais une fille, ça clique dès le début, puis après même pas une semaine, elle me dit, pour aucune raison, ben finalement, non, on pourra pas être en couple, là. Je cherche juste de l'amitié, alors que 5 jours avant, elle me disait exactement l'inverse.
Ouais.
C'est une des raisons. Je veux dire, on s'entend que ça blesse hein, quand tu te fais dire ça.
Ben, le rejet, ça fait toujours mal.
Hein. C'est pour ça que je te dirais depuis ce temps-là, j'ai même plus envie présentement de... Ben, j'ai vraiment lâché prise. Je suis un peu en mode, écoute, ça va arriver tout seul. Mais oui, j'ai eu des dates moins fun que d'autres, mais j'ai eu quand même des bonnes relations aussi. Là. J'ai eu ma première vraie blonde, ça fait... c'est en 2020, pendant la pandémie. D'ailleurs, j'ai fait mon rebelle. Moi, je me l'ai fait à l'été 2020. Mais c'était une super belle relation. Donc, c'est possible d'avoir des belles relations quand tu as un handicap. Mais ouais. C'est plus compliqué. Puis ça prend une fille vraiment qui a des bonnes valeurs. Ça prend une fille qui... Ça prend une fille souvent qui sait où elle s'en va.
Une fille qui sait où elle s'en va.
Ouais.
OK. Puis est-ce que tu as l'impression que les fois où tu as pu être en date,
ouais.
Les personnes qui t'ont rejeté, c'est en raison du handicap?
Je peux pas dire hors de tout doute que c'est ça, parce que je veux dire, les filles vont pas me le dire, tu comprends? Il y a pas une fille qui va arriver et va dire, écoute, Ben, à cause de tes yeux, je vais pas te donner une chance. Il y a aucune fille qui va dire ça, parce que c'est mal vu. Mais je crois que ça n'aide pas. Puis pourquoi je vais dire ça, c'est que je regarde les filles qui m'ont dit non, pour la plupart, et ensuite qui sont allées sortir avec un gars pas longtemps après. Ça, c'est une autre affaire qui m'a blessé aussi souvent dans ma vie. Là. C'est tu te fais dire non, puis finalement, un mois après, elle se retrouve avec un autre gars. Mais c'est des gars qui avaient moi, qui je trouvais étaient égal à moi. Là, tu comprends? Ils étaient pas nécessairement plus intelligents, pas plus beaux, plus, mais il n'y avait pas d'handicap. Alors, est-ce que ça joue? Malheureusement, oui. Je pense que ça peut jouer. Faut pas s'apitoyer sur son sort. Je suis pas en train de dire que c'est juste à cause de ça. Là. Mais ça n'aide pas. C'est sûr que ça n'aide pas. Parce que dès que ça marche pas, ben la personne va faire « Ah, mais de toute façon, il y avait une imitation, ça aurait été plus compliqué. » Alors, okay. Je pense que ça aide pas. Mais je suis pas en train de dire que c'est impossible de trouver l'amour. Là. C'est vraiment pas. J'en connais des personnes qui ont une imitation puis sont mariées avec des filles qui n'ont pas de limitation puis ont 26 ans. Ça se fait. Mais ça te prend plus de chance.
OK. T'as-tu des goûts, toi? T'as-tu des préférences?
Ben, physiquement, c'est sûr que un petit peu moins. Mais c'est sûr que j'aime les personnes sportives, on s'entend. Je suis un sportif, ouais. Je fais beaucoup de sport à tous les jours.
Mais d'allure sportive ou encore des gens qui pratiquent des sports? Parce que c'est différent, tu sais. Puis, je veux dire, tu sais, moi,
ça peut être les deux. Là,
en tant que voyant, moi, si une fille m'intéresse, a priori, ce sera pas parce que c'est une fille avec des valeurs profondes et tout ça. Ça va être, au départ, ça va être l'œil. ce que je vois, tu sais. Ouais. Oh, wow, tu sais, c'est une fille que je trouve super belle. Puis après ça, je vais m'intéresser à elle. Puis après ça, je vais connaître ses valeurs. Puis après ça, je vais commencer à m'intéresser de plus en plus à cette personne-là. Toi, est-ce que tu sautes l'étape de l'apparence physique?
Comment je dirais ça? Pas complètement, parce que je vois un peu encore, mais beaucoup moins. Okay. Le physique est moins un critère majeur. Je te dirais, si la fille, c'est pas la plus belle au monde, selon moi, parce que chaque personne est différente. Tu peux trouver une fille belle, puis l'autre gars va dire que non. Mais si moi, dans ma réflexion à moi, je me dis, ouais, elle est belle, mais il y en a des que je trouve plus belles, mais elle a toutes les valeurs que je recherche, ben je vais aller avec elle pareil. Parce que je suis moins exigeant sur le physique. Puis je pense que c'est un avantage pour moi parce que les gens de ma génération, surtout les gars, sont rendus très... c'est très superficiel.
Dans les apparences.
Oui, beaucoup. Moi, je suis beaucoup moins apparence. Je remarque beaucoup plus la personnalité, ce que la personne a à offrir aussi dans une relation. Alors oui, je suis moins apparence. Je regarde un peu, c'est sûr. Mais oui, c'est moins critère.
Sais-tu ce qui est curieux? Parce que c'est quand je parle avec des chums de filles, ils recherchent exactement un gars qui va plus en profondeur que regarder juste à la surface. C'est capoté.
Ben, je pense
fait qu'avis à toi, j'ai un célibataire à vous présenter qui regarde les femmes en profondeur.
En profondeur.
Il regarde votre âme, on pourrait dire ça. Hey, on a plein de trucs à jaser encore. Attends un petit peu. On le fait-tu là? On va le faire tantôt. Okay? Fait qu'on va faire une courte pause, puis après ça, on va continuer à s'amuser avec mon chum Benjamin Ouellet, qui est un athlète paralympique, un gars qui espère un jour aller aux Olympiques, qui participe à une multitude de compétitions. Toi, t'es un coureur.
Ouais, exactement, un coureur.
Puis tu cours pas avec ta canne, je t'ai vu.
Non.
Tu fais-tu les haies?
Non.
T'as déjà essayé.
J'ai déjà foncé dans une haie, par contre.
Tu me l'avais dit.
Deux fois d'ailleurs.
OK, fait que restez avec nous autres. On reste encore ensemble pendant une demi-heure, les amis. Merci d'être là.
Marceau, le soir. Salut, c'est Jean de Lévis Chrysler.
Salut, c'est Steph de Pintante G.
Le Wrangler, c'est une vraie légende, Stéphane. T'avais pas un gars là pour récompenser les légendes, toi?
Ouais, on en reparlera. Mais en attendant, on a plein de Jeeps en stock. Des Wrangler Sahara 2023 en location 60 mois à 169 $ par semaine, zéro comptant, disponible pour livraison immédiate. Pintante G, membre du groupe Auto-Québec, où on s'occupe de vous.
OK, les filles, je suis prêt pour le podcast.
OK, parfait. Ça va parler de quoi?
Ben, on se racontait des affaires, on va...
Denis, ça va parler de quoi?
Je sais pas, de tout, de rien. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun. On saute dans le vide. Sauter avec nous autres.
Gravel dans le retour, le podcast. Une production Boulevard 102.1. À écouter en onde tous les mercredis dès 19h et sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et le BLVD.fm.
Une présentation d'accommodation Chaloux. Avec plus de 1000 sortes de bières de microbrasserie et de grandes marques, c'est chez eux que vous trouverez le plus grand choix au meilleur prix. Saint-Émile, Beauport et au Grand Marché de Québec. Accommodationchaloux.com.
T'as des problèmes de feuilles de temps avec tes employés? Remise encore sur des bouts de papier? Ça, c'est pas fort. Fais comme nos 35 000 utilisateurs. Économise temps et beaucoup d'argent. Ta solution? MobilePunch.com.
Simon, on a reçu la facture d'Hydro!
Je m'en occupe!
Ah! Du 1er novembre au 31 décembre, SGL Climatisation Chauffage paie les taxes à l'achat d'une thermopompe Daikin garantie 12 ans pièces et main d'œuvre. Soyez au chaud sans vous ruiner avec SGL Climatisation Chauffage. Pour votre prochain brunch, pensez Birabasta. On vous propose un tout nouveau menu déjeuner les week-ends dès 9h. Pizza déjeuner, œufs bénédictines, mimosa à volonté, tout pour un brunch des plus festifs. On se voit ce week-end. Réservez sur notre page Facebook Birabasta 802 rue Saint-Joseph-Est.
C'est présentement la grande vente du temps des fêtes chez ProPerform. Profitez dès maintenant de nos meilleurs rabais sur toutes les motoneiges Polaris 2022 en inventaire. Taux de financement avantageux avec Polaris et 500 $ d'accessoires gratuits sur modèles sélectionnés. Properformance.ca, votre concessionnaire Polaris à Boischâtel et Saint-Raymond.
L'application Boulevard 102.1, un incontournable depuis au moins 4000 ans.
Je ne suis peut-être pas capable d'allumer un feu, mais j'ai tout ce qu'il me faut avec cette application. Et comme disait mon vieux père, roche et roule.
Appelez, textez, votez, réécoutez l'app Boulevard 102.1. Un incontournable. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
vous rappelle que ce soir, on est avec mon ami Benjamin Ouellet. C'est un athlète paralympique. C'est mon étudiant au Collège Radio-Télévision de Québec. Et Benjamin espère travailler dans le merveilleux monde des communications. Puis on n'a pas abordé cet aspect-là, effectivement. Merci. T'es déjà bon. T'es déjà meilleur que moi. C'est les sports qui t'intéressent dans les médias, c'est les nouvelles, c'est d'animer.
Je te dirais que quand j'ai commencé au collège, moi, je voulais devenir animateur au niveau des sports, chroniqueur sportif. Mais on a tout fait au collège. On a fait pièces de théâtre, chronique, on a tout fait. Et j'ai découvert que l'histoire, j'étais assez bon là-dedans aussi, la politique.
Ouais.
Alors je me dis, pourquoi pas, je pourrais être animateur, je me verrais. Je suis capable de parler un peu de tous les sujets. Ou sinon, je peux être co-animateur pour parler de n'importe quoi. Je te dirais, mon seul point faible, c'est peut-être l'art et culture. Quand on parle de films, quand on parle de séries.
Ouais.
Mais encore là, je pense que ça a peut-être un lien encore là avec le fait que je vois moins, parce que je regarde un peu moins de films et de séries que quelqu'un qui voit, qui voit complètement, parce que ça me fascine moins, tu comprends? C'est moins dans mon ADN. Alors, je pense que oui, les sports, la politique, l'histoire, c'est vraiment des choses qui me passionnent, mais je suis moins juste dans le sport. J'étais beaucoup dans le sport avant, puis je pense que j'ai réussi à sortir de ça.
Fait qu'on a réussi à te sauver.
Ben, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui percent juste en sport.
Il y a énormément de gens qui sont dans le merveilleux monde du sport, mais normalement, c'est des gens qui ont été des anciens coachs, des gens qui ont passé par le journalisme
ou qui ont été athlètes,
comme athlètes comme tu es.
Mais je pense que ça peut être un avantage d'ailleurs d'avoir fait une carrière.
Ce qu'on fait nous autres au collège, c'est qu'on vous prend.
Ouais.
Vous êtes tous des spécialistes dans vos domaines respectifs. Tu vois, j'en ai un qui est un spécialiste dans... Il était spécialiste en rentrant au collège. Là, il était spécialiste des grandeurs nature.
Oh oui, je me rappelle.
Puis là, je me suis dit, mais c'est mon frère avec lui. Là. Et puis finalement, ça, il fait partie de mes meilleurs étudiants. Puis maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a mis en place avec lui, il est capable de parler de n'importe quoi. Tout comme toi maintenant, qui est capable de parler d'histoire, qui est capable de faire du théâtre. En plus, je t'ai vu même danser. Tu tripes sa musique. Est-ce que tu crois que tu vas avoir des limitations dans cette profession-là?
Sincèrement, je crois pas. Je pense que tout se fait. C'est sûr que, parce qu'on a un cours de journaliste au collège, je pense que journalisme peut être un peu plus compliqué quand on parle de journaliste sur le terrain. Là. Je pense que ça peut être une petite limitation parce que je peux pas conduire. Puis je veux dire, il y a des événements qui sont plus dangereux à couvrir que d'autres. Je pense qu'à ce niveau-là, peut-être pas. Mais je veux dire, journalisme en studio, par exemple, je vois pas en quoi c'est différent.
Ouais.
Puis je me rappelle, quand je suis arrivé au collège, tu m'avais demandé, mais au niveau de la recherche, comment tu vas faire? Puis même le directeur de l'école me l'avait demandé. Au niveau de la recherche, là, il y a aucune différence. Là.
Ouais. C'est,
ça a aucun rapport.
Parce que moi, c'était une première.
Ben oui.
C'est la première fois que j'avais un étudiant comme
toi. Tu me l'avais
demandé,
comment tu vas faire pour parler des sujets, parce que il y a beaucoup de choses qui passent par la vision. Là.
Exact. Puis après ça, tu m'as montré ton kit, ton ordinateur, le clavier d'ordinateur que tout le monde connaît, et ton propre clavier braille à toi. Puis avec ça, mon âme, tu peux diriger le monde.
Ah, oh, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux-tu
aller voir de la porn avec...
avec le braille? Non. Mais sincèrement, la plage braille, c'est magique parce que...
Ben oui.
Ce que vous survolez avec vos yeux sur vos feuilles, moi, je le survole avec mes doigts. Alors, pendant que je suis en onde puis que je suis en train de lire, des fois, je suis rendu sur une autre ligne avec mes doigts de ce que je suis en train de lire en réalité. Fait que c'est le même processus que vous faites avec vos yeux, mais c'est avec les doigts. Mais c'est magique, là. Puis il n'y avait pas ça il y a 20 ans.
Oui, mais tu comprends que pour nous autres, en tout cas pour moi du moins, puis je pense que c'était tous les étudiants du collège, même les enseignants, c'était la première fois que je voyais un individu qui parlait, puis en même temps est en train de passer ses doigts sur un clavier. Puis en fait, tes doigts, c'est comme tes yeux maintenant.
Ouais.
Puis t'es capable d'être fonctionnel. T'sais. Moi, je veux dire, là, je regarde la télé, puis ma blonde me parle, je l'entends même pas. T'sais, faire deux affaires en même temps, je suis pas capable. Toi, tu parles, tu jases, puis en plus, tu lis tes affaires. T'sais, on dirait que vous avez comme développé des parties de votre cerveau que nous autres, on n'a pas développées.
Bien, mentalement, ça nous demande plus aussi.
On est supérieur.
Non, mais moi, à la fin de la journée, je suis épuisé, là, probablement plus que la la moyenne. Parce que on en a fait des shows, puis tu m'as vu quand j'animais. Écoute, des fois, je gérais la mise en onde. Je parlais avec les étudiants. À côté, j'avais mon ordi, puis j'avais 3-4 fenêtres d'ouvertes sur mon ordi. J'avais mon timer, j'avais mes fichiers, puis tu gères tout ça en même temps, là, t'as pas le choix.
Puis tu trouves-tu qu'on y va... Parce que, tu sais, moi, là, Benjamin, je veux te mettre tous les bâtons d'un roue possible pour te montrer qu'est-ce que tu vas pouvoir vivre lorsque tu vas arriver dans ce métier-là. Tu trouves-tu que ma façon de faire, en te traitant comme tout le monde, trouves-tu que c'est une façon correcte de traiter les gars et les filles qui sont atteints de cécité ou encore des gens qui sont handicapés dans notre société?
Bien, totalement. Puis je veux dire, c'est ça qui fait que tu deviens une meilleure personne, mais quelqu'un qui est encore plus capable de fonctionner normalement. Puis toi, tu le fais, mais il n'y a aucun prof qui m'a traité différemment depuis que je suis arrivé au collège. Je veux dire, avec Alain...
C'est qui est le plus baveux que toi?
Alain, pardon. Alain, c'est notre directeur, ça dit ça passe.
Parce qu'il faut dire qu'on te lâche pas, là.
Mais Alain, il m'en a fait faire des affaires, là. Ben oui. des introductions de musique en mode automatique, puis ça roulait tout seul, puis j'avais pas de timer au début.
Comment tu fais pour mettre un timer?
Dans le fond, je mets TVA Sport direct sur mon ordi. Ouais. Je suis connecté au compte. Tu coupes le son, puis tu vois les secondes défiler.
Fait que toi, tu les lis avec tes doigts.
Exact. Puis tu peux mettre plein d'autres fenêtres en même temps. Alors, des fois, je mets mes fichiers, je mets mon log. En fait, le log de musique, j'ai les tunes plus mes sujets. Fait que j'ai 3-4 fenêtres ouvertes. Puis là, il faut que je change les fenêtres avec mon ordi tout en parlant. Là. Des fois, ça se fait en 3-4 secondes.
Hey, je fais une aparté. Pourquoi il y a du braille sur mon volant de char?
Ça, c'est une bonne question.
Ça m'inquiète.
Mais ça, pour vrai, c'est une bonne question. Je m'ai jamais posé la question. Parce que je conduis même pas. Mais non, mais... Peut-être qu'ils veulent que la personne klaxonne, ça a besoin d'aide, je sais pas. Là.
Ah, ben regarde, tu vois.
Ben peut-être.
Je pense que c'est peut-être ça. Quelqu'un qui est assis sur le siège du passager,
il y a un accident,
il veut klaxonner. Mais t'as raison.
Mais je m'ai jamais posé la question.
Ben tu sais quoi, je pense que t'es tombé target dessus. Tu sais quand tu dis que t'es un super héros, là, c'est ça. Tu l'as trouvé tout de suite. Est-ce que tous les appareils sont adaptés? T'sais, on voit maintenant que dans les ascenseurs pour les étages, il y a tout le temps un petit peu de braille là-dessus. Il reste-tu des choses dans notre société sur lesquelles on pourrait travailler?
C'est dur à dire. Je te dirais, les ascenseurs, comme tu as dit, on commence à beaucoup plus les adapter. Il n'y a pas grand-chose qui n'est pas adapté totalement. Il y a des feux sonores. On n'a pas des feux sonores partout. Tu sais, les feux que tu peux traverser les rues facilement.
Ouais.
Quand t'es non... Ça, il n'y a pas ça partout. Ça, on pourrait développer ça encore plus parce que moi, je vois encore un peu. Là, c'est pas si pire. Je suis quand même capable un peu voir les autos. Mais quelqu'un qui voit rien, là, s'il n'y a pas de feux sonores en ville ou tout ça, là, il ne traverse pas les rues.
La slotch, là, avec vos cannes, ça fonctionne de quelle façon?
C'est compliqué. C'est parce que des fois, la boule, elle pong dedans.
Ouais.
Mais la slush, je sais pas si c'est pire. Je trouve que c'est la glace qui est dangereuse pour nous. Là. Parce que la glace, la canne ne voit pas... Elle va pas te le dire totalement qu'il y a de la glace. Hein. Elle va voir qu'il y a... Elle va te dire qu'il y a quelque chose, mais tu vas pas catcher. Là. Puis s'il y a trop de neige, oublie ça. S'il y a trop de neige, tu peux pas laisser les trottoirs. Tu peux pas... La canne, ça fait pas des miracles. Ça aide, là, mais c'est pas magique. Là.
T'as-tu déjà risqué ta vie... Sachant que ce que tu étais en train de faire là, c'était comme pas faisable pour quelqu'un de non-voyant, tu l'as-tu déjà fait?
J'ai déjà...
traversé à New York, là, parce que pendant que le truc piétonnier n'est pas...
Mais à New York, non. Mais j'ai déjà... Je faisais de la course au secondaire. J'ai déjà fait de la course dans des rues. Pas de guide.
Ben, il y a une vidéo sur ta page Facebook que j'ai vue en faisant de la recherche là, tantôt, où tu cours à fond la caisse. Tu cours pratiquement aussi vite qu'un marathonien, là, mais à pleine planche, puis t'as pas de canne. Là. Tu regardes bien droit dans les heures, t'as une foulée.
J'ai jamais ma canne quand je cours, premièrement. Mais des fois, j'ai une corde avec un guide. Parce que comment ça marche? On peut courir avec un guide qui est attaché à toi, une corde que tu mets dans ton poignet, puis le guide est relié à toi. Alors, tout le mouvement du bras, faut que ça soit en même temps. C'est synchronisé. Puis quand tu cours, le guide, ça te permet de t'aider à tourner. Mais à cette époque-là, quand j'étais au secondaire, j'avais pas de guide. Puis je courais dans les rues, sur les trottoirs. J'avais un ami qui était en avant de moi, puis... Quand le trottoir finissait, il me disait « Ben, saute! » Je sautais « Ben, saute! » Je rembarquais sur le trottoir, je tournais, je traversais les rues. C'était dangereux. Là. Puis je savais que c'était dangereux là, parce qu'il y avait des autos qui passaient. Puis je me rappelle même, à un moment donné, mon ami allait pas assez vite pour moi. Puis je l'ai regardé, j'ai dit « Bon, man, je m'en bats. Puis là, mon ami m'avait regardé, comment ça tu t'en bats? Je m'en bats. Je suis parti en avant de lui tout seul. Je pense que j'ai fait un kilomètre dans la rue tout seul. C'est les trottoirs, puis je suis parti. Puis c'était quand même dangereux, là. Ouais. Je veux dire, mais je savais, mais dans ma vie, je fais quand même des choses, je dirais pas dangereuses, mais je suis quand même quelqu'un de casse-cou. Là. Pour quelqu'un qui est non-voyant, là, j'y vais à fond dans tout. Là.
Ouais. T'en as pris des débarques aussi.
Ah ben oui, écoute, j'ai foncé dans une haie. Je me rappelle, on était à 5 minutes au championnat canadien. Là. On était à 5 minutes avant de faire un relais. Et le guide a oublié de me dire qu'il y avait une haie là. Et mon doigt, à pleine vitesse, se coince dans une haie. Et j'étais vraiment dans la merde, Yann, parce que ce doigt-là...
Tu lis avec?
Oui, premièrement. Ouais, mais c'était en plus le doigt avec lequel j'allais prendre le relais. Parce que là, dis-toi que moi, je suis droitier. Mais j'allais avoir un guide dans la main droite à cette compé-là. Alors, il fallait que je prenne le relais de la main gauche qui était blessée, puis je suis pas gaucher.
Non, c'est ça.
Alors, j'avais un gros problème. Puis je me rappelle, tout le monde paniquait. Hey, ben, voyons, il faut que tu ailles à l'infirmerie. Puis j'avais regardé les gars, j'avais dit, ah, moi, de la merde, là. Je vais courir pareil à cette compé-là. Puis, écoute, je te mens pas, je pense qu'on avait fini deuxième au Canada à cette compé-là. On avait. Ouais, c'est ça. Puis c'était la première fois dans l'histoire qu'une personne aveugle remportait une médaille au championnat canadien régulier.
OK.
Alors, je voulais pas manquer l'opportunité de le faire. Là.
Non, c'est ça.
Mais c'est la première fois dans l'histoire. Ça n'avait jamais fait qu'une personne aveugle remportait dans un championnat canadien régulier une médaille. Puis, dernière affaire par rapport...
En même temps, là, ouais. Ton attitude me fait capoter. Là. J'aime ça.
C'est une attitude
monde.
Un peu nonchalante. Là.
Ben, tu sais comment je suis.
Ouais.
Ben, c'est pour ça que ça me fait capoter. Mais en même temps, ça nous fait vivre des affaires que des fois, on vivrait pas.
Mais
si
non.
On continuerait d'être comme monsieur et madame tout le monde. On fait des affaires en se disant... Regarde, advienne que pourra, mais bien souvent, ça débouche sur des choses qu'on ne s'attendait pas. Puis toi, tu as réussi à gagner cette médaille-là alors que des gens atteints de cécité ne l'avaient jamais gagnée.
Oui, puis je ne le savais pas. Hein. À l'époque, ce qui est drôle, c'est que c'est une coïncidence en plus que j'ai fait ce relais-là. Je remplaçais un gars
okay.
qui était supposé être là. Mais vu que j'avais déjà fait un relais en pratique, les entraîneurs savaient que j'étais capable de le faire. Et je me rappelle, c'était vraiment... C'était un conte de fées, cette médaille-là, parce que tous les gars, on était pétés. On avait fait une compé une heure avant. on n'était même pas en forme à cette compé-là.
Ouais.
Puis je me rappellerai toute ma vie, c'est pas moi qui me l'a dit. C'est pas moi qui l'a su, mais c'est les gars de mon équipe qui me l'ont dit. La face des gars des autres équipes, quand j'ai pris le relais.
Ouais.
Parce que j'étais le dernier en plus, parce que je pouvais pas donner le relais. Fait qu'il fallait qu'ils me mettent dernier. Puis tu sais, habituellement, le dernier, c'est le plus fort. Moi, j'étais pas nécessairement le plus fort de mon équipe à cette époque-là, mais en raison de ça, on m'a mis dernier. Et je me rappellerai toute ma vie quand les gars m'ont dit, les gars, ils sous-estimaient un peu, et puis ils disent, quand t'as pris le relais, puis t'es parti comme un vrai fou, la face des autres équipes ont complètement changé.
Ben, tu sais, moi, c'est ce que j'ai vu sur ta page Facebook. Là. Tu fais une course, mon gars, on dirait un cheval fou.
On dirait un cheval fou qui veut plus jamais arrêter.
C'est impressionnant à voir. T'sais, moi, j'en ai vu du monde qui court, là, ouais. Mais comme toi, là, à fond de la caisse comme ça, c'est très surprenant. Puis en plus, sachant que t'es limité au niveau du champ visuel, c'est
faut pas avoir peur. Là.
C'est exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Mais je trouve que tu as vraiment une belle attitude, mais en même temps, si j'étais ton père, je chierais dans mes culottes.
C'est plus ma mère. Je dirais. mon père est un peu plus dans mon attitude.
Ah,
écoute,
ouais.
j'ai quand même déjà couru en arrière de son char. Hein. Parce qu'on n'avait pas de guide.
Est-ce qu'il traînait avec une corde?
Non.
Cours, Benjamin, cours!
C'est parce qu'il fallait que je cours. On était avec une compé, puis j'avais pas de guide. Fait qu'on avait dit, ben écoute, je vais être dans mon auto, puis tu suivras le char. Fait que je courais, puis je suivais le char. Mais ça, mon père était game, mais ma mère aurait jamais fait ça.
Non.
Jamais.
Ah, c'est ça. Bon, on sert à ça, les pères.
Mon père est un peu comme moi.
OK.
Ouais.
Cellulaire, comment ça fonctionne? Parce que tu m'as texté tantôt deux, trois fois, puis ouais. T'es super fonctionnel. T'as-tu les mêmes cellulaires que nous?
En fait, on a les mêmes cellulaires. Par contre, on installe VoiceOver dessus. Je sais pas si tu connais un peu le...
Pas du tout.
OK. C'est un logiciel qui est spécialisé pour les gens qui sont non-voyants. Et ce logiciel-là te lit absolument tout. C'est-à-dire que moi, j'ai mis toutes les notifications de la LNH, là, les équipes qui comptent un but. Fait qu'à chaque fois qu'une équipe compte un but, mon cell fait 21h, Alors là, je sais, ah, il me dit l'heure, donc j'ai une notification. Et là, je m'en vais la lire. Et mon cellulaire me lit absolument toute la notification.
OK.
C'est vraiment très... Et d'ailleurs, ça peut gosser les gens à long terme. Là. Moi, mes amis me disent tout le temps, ben, coupe ton voiceover.
Parce que ça te parle tout le temps?
Ah, c'est parce que c'est... Okay. Oui.
T'as-tu développé un genre de sixième sens? Dans le sens où, tu sais, t'as plus d'intuition sur des trucs, des fois, qui peuvent arriver. Y a un char qui arrive de loin. T'sais, tu l'entends pas encore, mais tu sais que c'est pas une place safe.
Ouais, puis au niveau des oreilles aussi, niveau auditif, moi, je suis très...
Ben, en fait, quand je fais des jokes, quand je fais du sarcasme,
ouais.
T'es tout le temps le premier à comprendre.
Ben, c'est ça. mais c'est parce que pour vous donner une idée, on fait des introductions de chansons à la radio. Et je me rappellerai toujours la réaction de toi. Première intro qu'on fait, je tape le poteau. Je tape le poteau, première fois qu'on en fait. J'expliquais ça à mon ami hier, je sais pas pourquoi, mais je vais écouter la toune une fois. Puis je vais être capable exactement de m'arrêter de parler au moment où la chanson va commencer. J'ai un sens de l'anticipation au niveau auditif, c'est assez... Puis oui, ça vient avec le fait que je vois pas. Puis on avait fait un test à un moment donné... Elle m'avait couvert mes yeux complètement pour pas que je vois le peu qui me reste.
Ouais.
Puis elle m'avait dit, il faut que tu me dises, je suis où dans la pièce? À droite, à gauche, devant, en arrière? J'ai eu 100%.
Fait que vous avez l'ouïe beaucoup plus développée. Hein?
Oui, en général. Okay. Oui, il y en a que c'est l'odorat. Moi, c'est moins. Là. Il y en a que c'est l'odorat. Là. Ils rentrent quelque part, puis ils vont sentir s'il y a du pot ou s'il y a n'importe quoi. Moi, je l'ai moins un peu ça.
Okay.
Mais moi, c'est le toucher. D'ailleurs, c'est moi qui retrouvais tout le temps les boucles d'oreilles de ma soeur quand on était jeune dans le bain.
Attends, ta soeur qui est voyante?
Ouais, elle perdait ses boucles d'oreilles.
OK.
Puis elle réussissait pas à les retrouver. C'est moi qui retrouvais avec mes doigts.
OK. Puis c'est une question, ça, que je me suis posée. Ouais. Tu sais, les gars, on a tendance à travailler manuellement, puis on se ramasse avec de la corne
ouais.
sur les mains, sur les doigts. Toi qui dois lire constamment sur ton clavier braille
ouais.
pour étudier, est-ce que tu viens qu'à te développer de la corne?
Non. C'est ça qui est particulier? Non, pas du tout. Moi, quand je développe la corde, c'est quand je fais des poids et haltères. Tu sais, quand tu soulèves des poids, puis là, j'en
ouais.
fais trop. Bon. Mais non, lire, non. Puis c'est une bonne question que tu me poses, parce que c'est vrai que techniquement, tu utilises tes doigts tous les jours,
ouais.
tout le temps. Mais non, non, ça fait rien. Mes doigts sont aussi lisses que quand j'avais 10 ans. Là.
T'as des doigts doux.
Ouais. Les mains aussi.
C'est quoi les objectifs que t'as dans la vie, Benjamin?
Oh, j'en ai beaucoup. Ben, premièrement, j'aimerais bien faire le tour du monde. C'est sûr que moi j'adore voyager. Puis ça, je me fais souvent poser la question, pourquoi Ben, qu'est-ce que t'aimes dans les voyages? Parce que on s'en est que les voyages, c'est quand tu vois que ça joue beaucoup. Mais moi, j'aime ressentir les choses. Tu sais, quand t'arrives quelque part, puis l'atmosphère n'est pas la même, le climat n'est pas le même, on apprend des choses historiques, c'est ça que j'aime. Les restos, la nourriture, je vois peut-être moins. Mais le sens de comprendre on est où, je le ressens tellement. Alors, voyager, c'est un de mes buts. C'est sûr que les Paralympiques, je le vise encore, mais je suis beaucoup plus réaliste par rapport à ça que quand j'avais 19 ans, parce que les standards sont très, 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 c'est très élevés. Et j'aimerais faire d'autres records canadiens aussi. J'aimerais bien faire le record canadien aux 800 mètres. Je l'ai déjà aux 5 km sur route, le record canadien dans ma catégorie. Puis j'ai plus de records québécois à aller chercher. Là. Je les ai à peu près toutes dans ma catégorie. Mais je veux dire, j'aimerais bien avoir d'autres records canadiens pour encore plus aller chercher pour ma réputation plus tard. Puis peut-être faire plus de compétitions internationales. Et évidemment, bon, travailler dans le monde des communications, ça c'est un but. Je pense que tu l'as vu dès le début de l'année. C'est un but qui pour moi est très important. Puis je pense que je suis à la porte de ça. Je suis vraiment pas loin de réussir mon objectif. Je le visais quand j'étais en secondaire 4. Là.
Mm-hmm.
Puis, je suis rendu là, je me rends compte que okay, je suis pas loin. Fait que c'est vraiment un objectif qui pour moi est principal. Je sais pas ce que je veux faire encore, travailler en télé ou radio, mais je vise plus la radio présentement. Que ce soit en sport, que ce soit en histoire, je suis ouvert à vraiment toutes les possibilités. Mais c'est un but qui est quand même assez important pour moi.
OK. Tu as dit quelque chose qui m'a ouais. un peu accroché. Tu as dit « je veux le faire pour ma réputation ».
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire pour tout le temps continuer à dépasser les limites que les gens... Continuer à inspirer les gens. Je pense que un de mes plus gros buts dans la vie, c'est faire une différence dans la vie des gens. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai déjà commencé à donner des conférences.
Ouais.
Puis je vais en donner encore dans les prochaines années.
Qu'est-ce que tu racontes dans tes conférences?
je pars de mon parcours quand j'étais bébé. Et j'arrive jusque-là aujourd'hui. Puis d'ailleurs, le collège va se rajouter à mes anecdotes et à ma conférence parce que j'ai pas donné de conférence depuis que je suis rentré au collège. Il y a une couple d'affaires qu'il faut qu'on rajoute, là. Mais oui, c'est une conférence qui parle de tout, mais qui parle aussi de mes théories sur la vie en général, ma philosophie de la vie. Mais honnêtement, mes philosophies sont beaucoup... J'aime inspirer les gens. J'aime sentir que je fais... Quand une personne me dit « Ben... » Je t'ai vu 10 minutes, mais t'as réussi à me faire comprendre quelque chose. C'est un des plus beaux cadeaux que tu peux faire parce que je pense, oui, je le fais pour moi, le travail que je fais dans le sport, dans ma vie en général, mais je le fais surtout pour les autres, pour que dans l'avenir, il y a plus de personnes qui vivent avec mes limitations, qui réussissent à performer. Les statistiques sont trop... comment je dirais bien ça? Les statistiques sont pas assez bonnes en 2022 encore pour une personne qui a cette limitation-là. On parle seulement de 20% qui ont leur diplôme d'études secondaires, 10% qui ont un diplôme d'études collégiales. C'est pas suffisant. Faut avancer, faut que les gens comprennent que tout est possible. Faut qu'il y ait plus d'ouverture des gens à intégrer ces personnes-là. Puis il faut qu'en tant que quelqu'un qui vit avec un handicap visuel comprenne que faut arrêter de s'habituer sur son sort, puis il faut y aller à 100%. Puis il faut réaliser la chance qu'on a d'avoir un handicap, oui, mais c'est pas un handicap qui t'empêche de fonctionner tant que ça. Là. Il y a des handicaps qui sont beaucoup plus dommageables, qui ont beaucoup plus de limitations. Je veux dire, à part nos yeux, là, on a tout. On a nos oreilles, on a nos pieds, on peut tout faire. Là. Je veux dire, alors pour moi, c'est vraiment important de continuer à faire ça. Puis quand je parle de faire d'autres corps, c'est encore là, continuer à écrire l'histoire, puis continuer que les gens me reconnaissent pour le travail qu'on fait, mais puis c'est aussi pour récompenser mes parents, évidemment, là, parce que mes parents, ils ont toujours été là, c'est des gens qui ont toujours cru en moi, je veux dire, j'étais en cinquième année, puis quand moi, je croyais pas en moi, quand j'ai fait des dépressions, parce que oui, j'ai fait des dépressions, mes parents ont jamais arrêté de croire en moi, puis ils ont toujours été là, puis j'ai des amis incroyables dans ma vie aussi qui ont toujours été là pour moi, puis ça me rend un peu émotif d'en parler, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose. Mais je pense que c'est ça qui m'a poussé à continuer. Je veux récompenser ces personnes-là. Puis si dans l'avenir, je peux continuer à inspirer des gens, non seulement mes futurs amis, peut-être justement ma future copine, ben c'est parfait pour moi. Puis je pense que c'est un devoir qu'on a en tant qu'individu.
Moi, je pense à tes parents, là. Puis je pense à mes enfants. Puis je me dis, si mes enfants sont capables d'atteindre 10%, du gars que t'es là à ton âge, là, je vais être extrêmement fier de mon enfant. Je me dis, ton père et ta mère doivent halluciner sur le Benjamin que je vois devant moi. Moi, tu m'inspires beaucoup. Tu sais, je vois clair. Là.
Ben, merci.
Ouais, pas toujours, là, mais je vois clair. Ouais, non, mais... puis tu m'inspires. Puis c'est la raison pour laquelle tu es avec moi dans le podcast de ce soir. Puis je veux juste te dire une affaire.
Ouais.
J'ai réfléchi beaucoup dans les dernières semaines. Sur ce que j'allais faire avec toi.
Ah ouais.
Sur ce que je voudrais faire ouais. avec toi. Tu n'as pas besoin d'aide dans la vie. Tout peut passer par toi, j'en suis persuadé. Puis moi, ben j'ai décidé d'offrir pendant le temps des fêtes un stage à un étudiant. Et ça s'est arrêté sur toi pour plusieurs choses. Mm. Si ça te tente de venir, j'en ai jasé avec les Leclerc, j'en ai ouais. jasé avec les patrons aussi. Si ça te tente de venir faire un stage d'une semaine, deux jours, trois jours, ouais. deux semaines, ben tu seras toujours le bienvenu ici. Ça peut se faire pendant le temps des fêtes si tu es disponible. Si tu ne l'es pas, ben on se trouvera un autre moyen de faire ton stage. Mais tu peux être sûr que j'ai le goût que les autres puissent t'entendre sur les ondes de radio, puis que ta voix porte encore plus et tout le temps plus fort.
Ben gros, merci.
Parce que tu es vraiment inspirant, mon ami. Fait que ce sera toi qui vas faire ton choix. Moi, je te l'offre. T'es le bienvenu. Les patrons sont
on aura en masse la chance d'en reparler dans les prochaines semaines.
Exactement. Quoique là, c'est ton examen la semaine prochaine.
La semaine prochaine, je suis pas mal occupé. Mais après.
Fait que si tu passes pas, ben là, oublie ton stage.
Je suis pas inquiet.
Mais regarde, t'auras l'occasion de réfléchir à ça. Oui. Puis ça me fait plaisir de t'offrir ça. Puis je te l'offre pas en raison je te l'offre en raison de la personne que tu es. Puis la personne qui travaille extrêmement fort jour après jour pour parvenir à ses rêves. Moi, je veux être dans une équipe de rêve chez les Leclerc pour l'instant. Tu sais, de la façon dont je vois ça, c'est une équipe de rêve. Puis si je peux joindre ça à un gars qui m'inspire, puis qui a probablement les mêmes ambitions que moi dans la vie, c'est-à-dire de faire avancer cette belle société-là, ben je vais le faire. Fait qu'un gros merci d'avoir été avec nous autres, Benjamin.
Ça fait plaisir.
Puis, by the way, pour les gens qui ont pogné l'entrevue vers la fin, là, ben, elle va être disponible sur les réseaux sociaux dans les prochains jours. Puis, je vais vous mettre ça aussi sur l'application Boulevard ainsi que sur le site internet de boulevard.fm. Merci beaucoup, Benjamin Ouellet. Je salue tes parents, je les félicite. Toi, je te salue, puis je salue toutes les filles qui sont à la recherche d'un vrai homme qui voit l'intérieur en premier. Il y en a un disponible à Québec. Contactez-moi, je vais vous mettre en lien. Salut, mon ami.
Marceau, le soir.
Aujourd'hui, c'est complètement fou chez Passe-temps 3000. Des rabais fous partout en magasin. C'est le meilleur temps pour acheter vos cadeaux. Profitez des rabais fous aujourd'hui chez Passe-temps 3000 rue Soumande.
Rage Against le matin.
Boulevard 102. C'est un des meilleurs films de guerre.